dimanche, RVE, il est 9h.
Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour. Particulièrement ravi de vous retrouver. Quel week-end de sport. On va même encore prolonger et continuer avec 3 heures non-stop de Tribune Sport ce matin. On a déjà fait mieux dans le passé, hein, mais en tout cas, on va avoir une riche actualité qu'on va pouvoir commenter ce matin. On va naturellement parler d'une épreuve qui nous est chère, hein, le Raid 28, hein, qui se déroulera les 19 et 20 janvier prochains. On a notre ami Patrick Pilorget, autant fatigué que nous, hein, il a fait le téléthon, Patrick, donc qui est ici venu en parler. Bonjour Patrick.
Bonjour.
Ça va? Pas trop.
Ça va très bien.
Ça va. Ok. Ensuite, on aura deux aventuriers, tiens, Orion et Hervé Guérin, qui vont nous parler d'une expédition faite dans l'Inde, en Inde. Hervé Guérin, bonjour.
Bonjour Philippe.
Hervé, il était là il y a 3 semaines pour parler tennis. Il vient nous parler de sa deuxième passion, donc qui est donc l'alpinisme. Bonjour, ouais. Orion.
Bonjour.
Bienvenue de Bourg-la-Reine, c'est ça? Hein. Et puis ensuite, eh bien, on aura le manager général de l'équipe cycliste Cofidis, Éric Boyer, qui nous rejoindra aux alentours de 10h. Et puis comme on a une petite heure supplémentaire aujourd'hui, on fera en fin d'émission, donc entre 10h et entre 11h pardon, et midi, eh bien, le bilan de tout ce qu'on vous a fait vivre durant les 42 heures de Téléthon de la région. Hein. On reviendra sur les temps forts de cette 21e édition, puis on fera un petit peu le bilan au niveau des dons. Ça a bien marché sur les Ulysses, Patrick, ou un peu en dessous des années précédentes?
On va certainement être un peu en dessous des années précédentes parce que la pluie a empêché beaucoup de coureurs de venir participer à nos kilomètres de l'espoir aux Ulysses.
Très bien, voilà. Donc on a plein de choses à vous raconter. Alors on perd pas de temps, on envoie la pub et puis on se retrouve dans quelques secondes. Voilà, alors avant, on va quand même remercier tous ceux qui ont été généreux et donc solidaires, hein, pendant ce grand week-end de Téléthon, hein, même si on est un petit peu en dessous des années précédentes au niveau des dons et des promesses de dons. Eh bien, ce qui est pris est pris et en tout cas, on va les en remercier. On va aussi remercier tous ceux qui nous ont envoyé quelques messages de félicitations pour la médaille de bronze de la jeunesse et des sports. Hein. C'était cette semaine du côté d'Evry. On les en remercie. Et puis, on voulait vous annoncer qu'à 10h, il y a donc au stade du Vieux-Moulin l'équipe cadette de Rambouillet qui va jouer contre l'équipe de Garches, hein, entraînée donc l'équipe cadette par notre ami Jean-Luc Mahury. Alors, Patrick, le Raid 28, c'est une épreuve qui nous est chère. Les 19 et 20 janvier, troisième week-end du mois de janvier, comment se présente cette édition 2008? Je suis sûr qu'il y a plein de choses et plein de nouveautés.
Il y a beaucoup de nouveautés. L'édition se présente très bien et on connaît un succès aux inscriptions qui nous fait plaisir. Mm-hmm. Beaucoup d'anciens coureurs reviennent et des nouvelles équipes reviennent aussi puisque on a fait une campagne d'information sur des grandes courses comme l'Ultra Trail du Mont Blanc. Donc on était présents à ces grandes courses-là et ça a permis de nous faire connaître comme l'année dernière et de faire venir des nouvelles équipes très très fortes et la bagarre sera sévère au mois de janvier.
Alors justement, je vous coupe parce que on parlait Téléthon, la transition elle est très bonne puisque vous étiez aussi sur le Téléthon des Ulysses et il y avait aussi dans le cadre du Téléthon du Perret le Rigole, hein, dont le départ a lieu hier soir à minuit. On y était. En principe, on devrait avoir Jacques Poligny tout à l'heure donc au téléphone parce qu'on est curieux de savoir dans quel état sont arrivés donc les coureurs, sachant que en général il y a 50% des participants qui vont seulement au bout. Là, vu les mauvaises conditions météo, j'ai bien peur qu'on en ait encore moins.
Oui, alors le Rigole, c'est une très belle course et beaucoup de nos amis qui participent au Raid 28 et qui viennent courir dans la région des Ulysses ont participé à cette course.
J'en ai vu hier.
Il y en a même qui sont venus courir pour le Téléthon vendredi soir. Qui se sont économisés, donc ils n'ont pas fait le parcours de 24 heures et qui ont quitté la course dans la nuit pour pouvoir garder des forces pour le Rigole.
Alors J-39 aujourd'hui, hein, l'heure est 28. Hein.
Pour nous, voilà, on est prêts. La course va être quelque chose d'exceptionnel puisque on a décidé de faire un record de balises. Mmh. Il y aura donc plus de 155 balises l'année prochaine. Ça va être quelque chose d'assez exceptionnel pour les coureurs qui sont des gens assez fanas de courses d'orientation. Comme grande nouveauté également, il y aura la participation d'une association humanitaire qui s'appelle Dune d'Espoir, qui est une association de coureurs à pied qui emmène sur les courses des jeunes et des jeunes adultes victimes de handicap à la naissance. Donc ça nous fait énormément plaisir de les aider à faire notre course. Alors ils feront une course un peu particulière puisqu'ils se déplacent avec un véhicule monoroue qui s'appelle une Joëlette. Mmh. On a fait une reconnaissance avec eux sur le parcours il y a quelques semaines et on va s'organiser pour pouvoir transporter la Joëlette séparément sur les terrains les plus difficiles. Mais ça va être une très très belle course. Ça nous attire évidemment la sympathie du public puisque notre course n'est pas destinée à être une course proche des personnes handicapées. Et ce sera un véritable défi pour ces bénévoles de l'association pour faire cette course-là, combien la Joëlette. Ce sera quelque chose d'extraordinaire et tous les bénévoles de l'équipe Touroum, qui est mon association organisatrice, sont absolument fanas de ces coureurs qui sont encore plus fêlés que nous parce que faut être extrêmement décidé et très courageux pour pouvoir transporter dans de bonnes conditions les jeunes enfants. Et quand on voit le visage de ces gens handicapés qui n'auraient jamais pu aller sur des épreuves comme les nôtres, sans le courage de leurs amis, ça nous fait énormément plaisir et on est 100% partisans pour les aider.
Ça s'est fait comment cette arrivée de Dune d'Espoir? C'est une idée de qui? Une rencontre par hasard, fortuite?
Les coureurs de Dune d'Espoir sont des gens que l'on rencontre partout sur les courses.
D'accord.
Et leur président fondateur, André Martin, est quelqu'un qui faisait beaucoup de courses, notamment il a fait des courses comme le Marathon des Sables.
D'accord, oui.
Avant les années 2000,
ouais, ouais.
Et c'est là-bas qu'il a eu un déclic. Mm-hmm. Je peux pas vous raconter toute l'histoire parce que je pourrais y passer toute la matinée. Oui. C'est une très belle histoire. Il a décidé de fonder son association de coureurs à pied pour aider les enfants handicapés à aller sur les courses. Mm-hmm. On les voit partout. D'accord. Ils sont très nombreux, ils sont très sympathiques, ils sont très courageux. Ouais. Nous sommes habitués à courir et à faire courir des coureurs très endurants, mais eux, ils ont un mental qui dépasse tout ce qu'on a pu rencontrer. Et vous qui êtes présents, qui faites de la montagne, voyez comme c'est difficile. Eh bien, ces gens-là, à accompagner des véhicules handicapés, sont au-delà de tout ce qu'on peut connaître. Et ils sont dépassés par le courage des enfants qu'ils emmènent, et ça les transporte au bout du monde.
Alors, même si le raid 28 est dur, on n'a pas le droit de se plaindre hein, quand on a de tels cas, hein, de telles situations.
Voilà, nos coureurs sont très courageux. Ouais, la course est difficile, ouais. Mais nous avons affaire à une population de sportifs qui sont très endurcis. D'ailleurs, je fais une parenthèse sur le téléthon que nous avons vécu ces dernières 24 heures. Les coureurs qui ont tourné sur le stade Jean-Marc Saligny aux Ulysses étaient eux aussi extrêmement courageux. Ils ont été un exemple pour tous ceux qui étaient là, parce qu'il a fait très froid. Mmh. Il y a eu de la pluie. Hier, c'était absolument insupportable. Les bénévoles, déjà, ont beaucoup souffert. C'était difficile pour eux, mais pour les coureurs, c'était l'enfer. Mmh. La pluie, le froid, le vent.
Le vent, oui.
Donc les coureurs de raid et les coureurs en général sous mauvais temps sont des coureurs et des coureuses très courageux. Nous avons fait une course, le raid 28, qui accumule toutes les difficultés. Mais apparemment, les gens aiment ça.
Oui, et je suis sûr que votre rêve, c'est qu'un jour, il y ait de la neige. Un troisième week-end du mois de janvier. Vous avez tout eu, Patrick, sauf ça. Je suis sûr qu'un jour, quelque part, c'est un petit souhait quand même.
Alors, tous les ans, on en parle. Ben nous n'avons jamais couru le raid 28 sous la neige.
Ouais. Mais bon, ça pourrait se faire quand même.
Ça pourrait arriver.
Troisième week-end du mois de janvier, c'est tout à fait possible. Hein.
Ah oui, mais nous avons bénéficié ces dernières années d'un temps, alors c'est la chance, d'un temps plus clément. Ouais. Je ne sais pas si c'est le réchauffement de la planète ou si c'est le hasard du calendrier climatique, mais nous avons toujours fait les arrivées depuis 3-4 années sous le beau temps. Même s'il fait froid la nuit, ouais. On a fait les arrivées avec un beau temps. Alors, on ne sait pas comment ça va être. C'est un des paramètres de la course qu'on ne maîtrise absolument pas. Mmh. Il y en a plusieurs. Et ce paramètre-là, on essaie de le connaître, le cerner quelques jours avant.
Alors on va rappeler donc justement que cette année il sera donc un but caritatif puisqu'il y aura 1 € par balise bleue touché sur le raid 28 qui sera offert justement à Dune d'Espoir. Hein.
Voilà, alors ça va être une motivation supplémentaire pour les coureurs. Ils ont des balises à toucher et ces balises-là sont des balises destinées à aider l'association. Donc dans la recherche du parcours, les coureurs vont être beaucoup plus motivés, et on le sait déjà avec les dialogues qu'on a avec eux par internet, qu'ils seront très 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 motivés pour aller chercher plus de balises bleues.
Mmh. Hervé, oui, il est très très curieux, il veut vous poser une question, il aime poser des questions comme ça.
Oui. Oui. Quand on voit maintenant la notoriété de cette épreuve, vraiment la qualité, on voit ça augmente d'année en année, le niveau, les gens qui viennent vraiment de partout, de toute la France, hein, je pense qu'il doit y avoir aussi des équipes étrangères.
Oui, Belges, Hollande.
Qu'est-ce qui vous motive vraiment? Parce que c'est dur, c'est long, c'est presque des préparations sur un an. Dès qu'on a fini, il faut déjà penser peut-être à la prochaine. Qu'est-ce qui vous motive d'année en année? Parce que là, ça fait combien de temps déjà?
C'est 94,
nous allons faire la 15e édition.
La 15e édition, c'est quand même beaucoup de travail.
C'est beaucoup de travail.
C'est la passion, hein, Patrick, c'est
ça. Ce qui nous motive, c'est nous avons fait un événement sportif qui est venu petit à petit au cours des 15 dernières années. Mais nous sommes surtout une bande d'amis qui organise cette course. Et tant que j'aurai autour de moi ces amis décidés, intelligents, volontaires, et puis ils ont une perception de la course, parce qu'ils se sont, pour beaucoup d'anciens coureurs également, une perception de la course à travers, pas seulement la difficulté, parce que ça c'est la conséquence de ce que l'on fait, mais à travers l'intérêt pour les coureurs d'aller sur des raids de ce genre où on a cumulé toutes les difficultés, le froid, puisque la date c'est l'hiver, donc ça contribue à aller dans une période où il fait très froid.
Déjà moi qui ai couru plusieurs marathons, déjà courir un marathon c'est quand même pas mal, alors donc là l'épreuve c'est quand même beaucoup plus long, ça se passe de nuit, c'est quand même l'engagement est vraiment
alors l'engagement est fort, parce que l'engagement physique est fort, mais il y a un engagement mental qui est fort aussi, parce que il faut que chacun puisse surmonter tout ces épreuves-là. Et puis, il y a encore une autre difficulté, c'est que l'engagement mental est un engagement mental collectif.
Ouais, c'est ce qu'on veut dire. Ouais.
Faire avancer une équipe de 5 personnes, c'est difficile, parce qu'il y a un objectif, c'est d'arriver dans les délais. Mais il y a aussi un objectif, c'est de pouvoir prendre les balises qui permettent à l'équipe de bien se classer. Donc cet engagement collectif, il est difficile à mener. Et tous les gens qui travaillent en équipe, tous les gens qui font du sport d'équipe, tous les gens qui font des événements en équipe le savent très très bien. On a du mal à mener des objectifs compliqués en équipe. Tout seul, on peut gravir les montagnes ou en toute petite équipe, en couple ou à trois. Mais avec des équipes de cinq, on commence à accumuler des difficultés mentales de l'équipe. Et c'est là où on voit les bonnes équipes et les équipes harmonieuses qui arrivent jusqu'au bout.
Oui, Patrick, c'est une question que je pose souvent. Les caractères et les personnalités se dévoilent dans une épreuve comme le Raid 28, hein, parce que il y a 5 équipes, hein, qui sont composées, donc une personne féminine. D'abord, comment sont constituées les équipes? C'est par affinité au départ, c'est par compétence, c'est par intérêt, parce qu'on se dit tiens, on va prendre les plus forts pour gagner.
Alors au départ, la course que l'on a conçue était une course uniquement faite pour être couru par équipe. Ce sont des équipes de 5 mixtes, donc il faut obligatoirement une femme dans les équipes. Ça donne une mentalité particulière, parce qu'on n'a pas voulu faire venir sur la course des commandos de 5 garçons très costauds, etc., parce qu'on en trouve souvent. Nous avons voulu introduire une mentalité un peu particulière. Dans les équipes qui sont formées, on trouve surtout des équipes de clubs, des équipes d'amis, des équipes d'entreprises, des gens qui sont habitués à faire des choses ensemble. Ça, c'est à l'image de l'équipe Kuro, mais à l'image de mes amis organisateurs, dans la vie, on fait d'autres choses ensemble. On agit dans d'autres associations, humanitaires, loisirs, dégustations. Philippe, tu as rencontré mon ami Yvon, qui est président d'un club de dégustation de vin. Ça fait partie de nos activités. On a une équipe d'organisateurs qui mène leur vie ensemble aussi. On a des choses que l'on fait indépendamment, mais il y a des choses que l'on fait collectivement. Et les équipes qui viennent sur le Raid 28 sont très très souvent des équipes de clubs, de sociétés, des groupes de pompiers, des groupes de policiers qui viennent sur cette course. Et ce sont souvent des gens qui sont des amis, et c'est un lien fort qui les unit, et c'est ce lien fort qui leur permet d'aller jusqu'au bout de la course.
Et il y en a qui pètent des plombs quand même des fois, hein, parce que moi je l'ai vu, hein, quand même sur place, il y en a la fatigue, les nerfs, il y en a qui craquent carrément, Patrick. Hein.
Alors chaque année, les équipes qui finissent par se disputer, de moins en moins, parce que les gens qui viennent sur ces courses maintenant...
Il y en a qui rigolent quand même, hein. On l'a vu dans le DVD, hein, même malgré la douleur, la difficulté, ça rigole.
Il y a une très très bonne mentalité, je pense qu'on y est pour quelque chose aussi, parce qu'au sein de notre équipe, nous sommes des vieux, jeunes, sérieux, un peu fêlés, et cette mentalité-là, on la retrouve beaucoup parmi les coureurs. C'est une mentalité qu'on retrouve chez tous les raidaires, les gens qui font des épreuves difficiles. Il y a quelque chose qui les pousse en avant. Mmh. Hein, c'est pas seulement le plaisir ou l'avant-hardise, c'est vraiment la fierté de faire quelque chose en groupe, parce que ça c'est vraiment très difficile.
Alors on va rappeler que le concept, hein, c'est une course en autosuffisance avec un parcours qui n'est connu qu'une heure avant pratiquement.
Voilà, alors on joue justement à ce mystère, on joue un peu aussi au jeu de Info Intox. Ah. Nous avons révélé une seule chose à la soirée, la semaine dernière. Voilà. Nous faisons une soirée 2 mois avant la course à peu près, une soirée de présentation où on révèle quelques petits secrets du parcours. Et là, nous avons révélé un secret qui est un grand secret. Nous avons dit que l'arrivée se ferait du côté de Bure.
D'accord.
Alors que d'ordinaire, on part de Bure et on va vers Chartres. Ouais. Nous avons révélé que l'arrivée se ferait du côté de Bure.
Alors, ça va être en sens inverse, quoi.
Tout le monde fait ses supputations, ses suppositions. Alors nous sommes malicieux avec cela parce que tout simplement, ce mystère sur le parcours est entretenu pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'on veut que quand la course démarre à 22h, quand elle démarrera à 22h le samedi 19 janvier, les coureurs trouvent un parcours neuf qui leur est révélé sur l'instant.
Donc vous changez de parcours tous les ans, c'est une difficulté ou ça pour vous en plus à l'organisation ?
Oui, si on veut, c'est une difficulté, mais c'est un plaisir pour nous de trouver des nouveaux endroits. L'Île-de-France n'est pas non plus le canyon du Colorado, donc pour trouver les espaces où les coureurs vont avoir du plaisir à passer, des endroits où on a le droit de passer, des endroits où ce n'est pas dangereux de passer, il y a des couloirs verts dans lesquels nous passons régulièrement. La forêt de Rambouillet, évidemment, est un endroit où nous sommes allés très très souvent. Nous trouvons des passages particuliers, nous échangeons entre organisateurs et chacun trouve dans son coin des bons trucs pour faire passer la course. J'ai pas mal d'échanges avec d'autres organisateurs de la région qui sont comme nous, qui ont une bonne équipe d'organisation, qui ont des amis qui aiment ça. Ça permet de durer très longtemps. Dans la course, je voulais vous dire que le profil du Raid 28, c'est un profil de course assez dur, de presque 24 heures, avec une nuit très très longue. Cette course-là est aussi une course d'orientation, parce que on trouve des effectifs de coureurs qui sont formés à l'orientation, maintenant. Et le Raid 28, qui a longtemps servi de course d'entraînement pour le Raid Gauloise, que beaucoup d'entre vous connaissent, qui est une course qui n'existe plus, le Raid 28 voudrait être un terrain d'entraînement pour une nouvelle forme de course qui existe, qu'on ne trouve pas encore en France, qui s'appelle des courses de Rogaine, ou Rogaining. Il y a un championnat international de Rogaining l'année prochaine au mois de septembre et nous commençons à faire connaître le Raid 28 comme terrain d'entraînement du Rogaining. Et le Rogaining, c'est une course d'orientation au score. Imaginez un terrain de 100 à 150 km² avec très peu de routes et très peu de maisons. On lâche dedans des équipes de 2, 3, 4 personnes en autosuffisance et en 24 heures, elles doivent trouver le maximum de balises. C'est exactement notre genre de profil.
D'accord. Il y a 18 heures, hein, je crois, maximum.
Hein. 18 heures maximum,
oui. Partie, hein, oui. 18 heures. Et donc, c'est pas l'équipe qui va forcément la plus vite qui va gagner. Hein.
C'est l'équipe qui va... faut aller quand même assez vite. Il faut être de bons sportifs, mais il faut surtout ramasser beaucoup, beaucoup de balises.
Il y a une préparation particulière, parce que c'est pas une course qui est pour le commun des mortels, quand même. Il faut quand même... on peut pas dire comme ça, entre une bande de copains, on va y aller, allez hop, sans peu d'entraînement physique, et puis surtout sans grosse préparation mentale, parce que on s'apprête à souffrir, quand même. Hein, c'est pas...
Bien sûr. Donc, chaque équipe, le profit d'une équipe, c'est d'avoir 5 bons sportifs et sportives, qui sont capables de faire des courses longues. Les marathoniens sont des très bons sportifs pour le Raid 28, les coureurs de 100 km, on dit les coureurs d'ultra, ultra-fond, tous ces gens-là sont capables de faire le Raid 28, c'est une capacité physique que beaucoup des coureurs peuvent avoir. Mais il faut également avoir une équipe qui s'est entraînée, il faut s'entraîner ensemble. Les équipes qui ne se sont pas entraînées ensemble, si elles ne sont pas composées de gens qui sont déjà des raidaires eux-mêmes par ailleurs, qui savent préparer leur sac, elles ne peuvent pas y arriver.
Ça, donc, c'est très important, ça, je pense.
C'est extrêmement important. Alors toi, tu sais ce que c'est, la préparation pour faire des raids en montagne, c'est très
il
dur.
Il va le faire, le Raid 28, bientôt.
Oui, oui.
Il est parti pour le faire.
Donc, il faut qu'il y ait des gens qui se soient entraînés ensemble, parce que le moindre incident, le moindre oubli fait abandonner l'équipe. Si, par exemple, il y a un équipier qui n'a plus de batterie pour s'éclairer, ou si un équipier n'a pas des vêtements assez chauds, ou si un équipier n'a pas pris assez de nourriture, ça peut être très, très vite un handicap pour l'équipe tout entière. Donc, les équipes qui ne finissent pas, en général, ce sont des équipes qui ont eu un équipier qui a connu une difficulté, le maillon faible.
Et alors, naturellement, on se parle, on s'encourage. Hein, ça fait aussi partie de la notion d'équipe. Oui, c'est important les mots, hein, un moment dans la douleur, dans la souffrance.
Alors les équipes en intérieur d'elles-mêmes
ont
une bonne motivation et se soutiennent fortement. Et on a vu bien des fois le maillon faible arriver jusqu'au bout. Malgré la difficulté, la fatigue, les blessures, le découragement, parce que les équipes les ont soutenus. On a vu également des gens blessés en cours de route, enfin blessés, une foulure, une difficulté, une tendinite, qui vont jusqu'au bout, qui vont jusqu'au bout de la douleur et qui dépassent la douleur et qui rentrent avec un handicap ensuite qu'il va falloir régler dans les semaines qui suivent, tout simplement pour ne pas faire abandonner l'équipe. Ce sont des attitudes très courageuses. Alors, on n'a pas cherché cela, mais c'est la conséquence de l'envie de finir en équipe.
On vous maudit, des fois, ça arrive.
Oui,
ils sont un peu gonflés quand même, ils charrient là quand même.
Tous les coureurs qui viennent sur cette course savent à quoi s'attendre.
Ouais.
Alors, nous ne sommes pas des bourreaux, les gens veulent des difficultés.
On devait vous traiter des fois de bourreaux, c'est d'arriver dans la douleur, dans la souffrance.
Oui, mais nous connaissons ce parcours-là, nous le faisons nous-mêmes, nous sommes tout le temps sur le terrain. Aujourd'hui, par exemple, nous sommes à RVE, mais en temps normal, nous sommes sur le terrain. Merci. Aujourd'hui, il fait assez beau, mais on vit également les temps de chien et on y va avec nos VTT. C'est encore bien plus difficile. Ouais. Tous les tracés que nous faisons, nous les connaissons, mètre par mètre, nous-mêmes, et même plusieurs fois.
Et puis, on y revient, de toute façon. Même si on dure, même si on vous maudit, on y revient.
C'est ce qui nous fait plaisir. Année après année, les équipes reviennent. On a des fidèles qui ont fait quasiment toutes les éditions. Ce sont des amis de longue date que l'on rencontre sur d'autres courses. Il y a beaucoup d'équipes ont fait 10 fois le Raid 28. On a un coureur qui a fait 14 fois le Raid 28. Il les a toutes faites. Toutes les éditions, ce sont des amis. Notre récompense à nous, organisateurs, ce sont les équipes qui reviennent. L'engouement, les inscriptions précoces, etc. Les discussions, les demandes, les gens qui sont des acharnés à trouver des bons orienteurs, des bons coureurs, une féminine qui fait le poids, etc. Ça nous fait plaisir. Et nous aidons, non pas à la formation des équipes, mais nous aidons en les conseillant. Alors tout ça, toute cette frénésie à former des équipes et à s'inscrire, ça nous fait plaisir. Notre récompense, ce sont les anciens qui reviennent. Et puis notre avenir, évidemment, ce sont les nouveaux qui s'inscrivent. Et en faisant des expositions dans des endroits de montagne, on a donc suggéré à des équipes qui ne nous connaissaient pas bien de venir sur l'Aide 28. Et cette année, on a des nouvelles équipes, des gens qui sont sur le papier très forts. Et cette confrontation entre les anciens qui ont un bon mental, qui sont habitués à la course, qui connaissent tous les trucs du métier de raider, cette confrontation avec les nouvelles équipes qui sont des durs de durs, de la montagne par exemple, ça va être extrêmement intéressant de voir comment les gens de la montagne vont affronter notre région à nous d'Île-de-France.
Alors le parcours, il se traduit comment? Un an avant? Vous en parlez entre vous, et qui fait le choix? Parce que il doit bien y avoir de temps en temps dire non, là on peut pas passer là, ou là c'est un peu plus dur, que on est un peu gonflé là. Qui tranche? Qui décide?
Alors je décide avec mes amis, on est un petit groupe et on essaie de faire jouer la structure de l'association. Il y a un petit groupe de 5 personnes qui sont vraiment les décideurs et dont les décisions s'imposent au groupe de 15 personnes qui organisent. Nous sommes 8 ou 10 à l'année à travailler sur le Raid 28. La commission du parcours est une commission très importante. J'inspire le tracé du parcours avec un ou deux de mes amis qui sont vraiment sur le terrain. On s'écoute les uns les autres et on fait des choix. Par exemple, le parcours du 17 et 18 janvier 2009 est déjà en cours.
Déjà. C'est comme le Tour de France, quoi, un an avant.
Voilà, un an avant. La date est quelque chose qui se décide avec une ou deux autres organisations de courses pour que nos courses avec des autres courses de province ne se chevauchent pas aux mêmes dates. On laisse un espace de 15 jours. Mais le parcours de 2009 est déjà pas en cours de construction vraiment, mais on échafaude des plans, on a déjà vu des passages. Maintenant, le Raid 28, c'est un concept de parcours. On ne fait pas ce qu'on veut avec la nature. Des fois il y a des rivières, des fois il n'y en a pas, il y en a plus, il y en a moins, il y a des obstacles, des trous, des tuyaux, des rivières souterraines, des tunnels, et tas de choses comme ça que l'on trouve, ce sont nos découvertes. Et à partir de ce parcours-là, on a donc, alors disons une inspiration, et nous construisons chaque année un parcours attrayant pour les coureurs. Ce parcours demande l'année de préparation. Donc on essaie, avant que le Raid 28 se court, par exemple, d'avoir une idée de ce qu'il sera l'année d'après.
Et puis l'hiver, l'été, ça doit être différent en plus. Quand vous allez en reconnaissance au mois de juin, juillet, ça ne doit plus être pareil qu'au mois de novembre.
Alors là, nous entrons dans l'espace secret des organisateurs, préparer la course l'été, c'est imaginer ce que vont vivre les coureurs dans cette belle région, parce qu'il y a des passages qui sont absolument magnifiques. Moi, je défends l'Île-de-France, c'est notre région. Il y a des endroits qui sont extraordinaires, et pas seulement les endroits boisés. Et l'été, quand on se déplace sous le soleil, dans les champs de blé ou dans les forêts qui explosent de verdure, on imagine ce que ce sera l'hiver. Donc nous sommes obligés de ruser pour voir la nature l'hiver. Donc nous préparons le parcours très très tôt. C'est-à-dire, une fois le raid 28 d'une année bouclée, quelques jours après, nous commençons déjà à faire la reconnaissance d'hiver pour voir la nature et voir comment les équipes vont appréhender cette vision du paysage à travers la nature sans les feuilles.
La nuit fait peur, Patrick, parce que c'est un des temps forts aussi, c'est la nuit. Nous, on l'a vécu avec vous l'année dernière. C'est le must.
La nuit, oui, c'est un must. La nuit fait peur, et nous, en tant qu'organisateurs, on sait ce que ça veut dire d'avoir peur la nuit.
Eh ben, ça tombe très bien. Je vous avais promis Jacques Poligny de l'Origol, puisqu'on était hier avec lui pour le départ à minuit. Jacques, bonjour.
Bonjour Philippe.
Alors ça tombe bien parce qu'on a Patrick Pulorgès ce matin du Raid 28 dans nos studios.
Ah ben, tu lui donnes mon bonjour.
D'accord, alors ça s'est passé comment? Parce que dans quel état ont dû finir ce matin les trailers?
Je vais te dire une chose, c'est une hécatombe.
C'est pas une surprise.
Là sur la troisième boucle, on a 65 coureurs sur les 180 qui sont repartis.
Beaucoup de difficultés. Les conditions météo ont rendu cette épreuve un peu plus dure.
Les conditions météo, oui, ont rendu la course très dure. Très très dure. La première boucle qui était plate, sans presque de dénivelé, mais bon, ça rappelait un petit peu les sentiers du Raid 28.
Ouais.
C'était bien bourbeux, donc à miner un petit peu l'esprit et puis les jambes des coureurs. Et puis la deuxième boucle, bah, tu sais où on est passé, les Vindrins, retour des Vaux-de-Cernay, les coureurs ne parlent que de ça, quoi.
Certains sont partis avec des bâtons parce que ça passait pas sinon, Patrick.
Il y en a qui sont partis sans et ils sont passés. La nuit a été calme, on n'a pas eu de pluie, le terrain a eu le temps de sécher un petit peu, mais bon, c'était quand même pour les premiers pas trop problématique. Faut savoir que les premiers sont arrivés en 7h29.
Ah oui.
Donc une demi-heure de plus que l'année dernière. Et bon, très très bien, quoi.
Et il y avait
très très bonne ambiance.
Oui, bien sûr.
Là, il y a sur les faut être honnête, on a arrêté 40 coureurs, c'est pas des abandons, c'est nous qui les avons arrêtés hors délai surtout.
D'accord. Une telle course comme ça, ils vont mettre 3 semaines, 1 mois maintenant pour bien récupérer. Hein.
Bon, à peu près, ouais.
Ah oui, parce que...
Ouais. Hein. Oh, mais il y en a qui sont venus en préparation du Raid 28.
Ouais, voilà.
Ça fera plaisir à Patrick. Et ils sont venus faire que 2 boucles.
D'accord.
Donc 50 km, ils se sont dit, comme ça on sera bien prêt pour le Raid 28, un petit peu de boue, un petit peu de dénivelé, donc tout qui va bien, quoi.
D'accord.
Et comme normalement on s'attend à avoir de l'eau d'après les premières présentations qu'on a eues, donc ils ont été servis, quoi.
Alors il y avait le 15e de l'épreuve du Mont Blanc, Jacques.
Oui, qui a terminé, non pas de l'épreuve du Mont Blanc, de la Réunion.
À la Réunion.
19e, et qui là a terminé 6e ou 7e, je crois, ouais.
D'accord.
On a eu un rebondissement, le coureur qui a été en tête sur la première et la deuxième boucle a fait une ou deux petites erreurs de circuit, 2 secondes d'inattention, il a loupé les balises et puis il a tourné pendant 2 km pour retrouver son chemin, quoi. Et là il s'est fait doubler par le troisième et le quatrième.
D'accord. On va rappeler que c'était aussi dans le cadre du Téléthon. On aura l'occasion de faire un bilan tout à l'heure sur le Téléthon, hein. Mais c'est vraiment une épreuve devenue incontournable maintenant dans le calendrier du trail. Hein.
Je sais pas. Tu as pu voir hier soir un petit peu. Donc en étant parmi nous, une grande partie au moment du départ. Il y avait un grand engouement. Tu as vu que ça venait des quatre coins de la France. Ouais. Et là, tous les retours que l'on a sont Bon, il y a des gens qui sont contents, il y en a qui sont moins contents, parce que bon, il y en a qui aiment la boue, il y en a qui n'aiment pas, il y en a qui aiment le haut, il y en a qui n'aiment pas, il y en a qui aiment le dénivelé, bon. Mais globalement, non, très très positif.
Bien sûr.
Malgré le fait que même les coureurs qu'on a arrêtés, ils ont dit non, on comprend, vous inquiétez pas, pas de soucis, quoi. Voilà.
Oui, parce qu'il y a aussi naturellement des problèmes de sécurité. Hein.
On a les problèmes de sécurité, et puis comme pour toute organisation, les problèmes au niveau, je dirais, bénévole. Bon, faut savoir qu'on a des gens qui sont dans la forêt depuis 4h, 5h dans la nuit. Bon, c'est pas évident, quoi.
Allez, Patrick, il avait un petit mot à dire. Patrick ?
Jacques, je souhaite bonne chance pour ta course. Nous, on a partagé les efforts, parce que les coureurs nous sont communs à ta course au Red 28 et au Téléthon que nous avons couru.
D'accord. Merci.
Voilà, merci Jacques. Et puis
Ok, Philippe.
À bientôt, bye. Salut, merci.
À bientôt, ciao.
Voilà, donc c'était Jacques Poligny, hein, qui tout juste après l'arrivée de la rigole, hein, donc qu'il a donc organisé, qui avait prévenu, hein, que ce serait très difficile, mais ça a été encore beaucoup plus difficile qu'avec dû aux conditions météo, hein, avec les conditions météo.
Voilà, c'est un signe. Les coureurs attendent de nous que nous leur préparions des épreuves plutôt difficiles, à la hauteur de leur talent, à la hauteur de ce qu'ils savent faire. Tu nous posais tout à l'heure la question de peur la nuit. Nous sommes des coureurs, pour moi, anciens coureurs. Qui ont beaucoup aimé la nuit. C'est vrai que la nuit, tout est étrange, toute la vision du paysage est déformée.
On voit des animaux.
On voit des animaux la nuit, au lever du jour, et nous avons, au cours de nos reconnaissances et de nos repérages du Red 28, très très souvent dans l'année, lever des animaux, des chevreuils, les animaux se cachent. Quand on se balade ou quand on randonne le jour, on ne voit pas la multitude d'animaux qui sont cachés, terrés dans la forêt. Mais quand on se déplace le matin de bonne heure, ou la nuit, on lève des animaux sauvages, des sangliers, des chevreuils, des lapins, enfin de tous les oiseaux, et la nuit est absolument étrange. Moi, ça m'est arrivé très souvent de progresser la nuit pour s'entraîner, tout seul. On a beau être un grand gaillard costaud, peur de rien, etc. La nuit, même à 10 km de chez soi, c'est quelque chose qui fait peur. Le moindre bruit, un bruissement, un feulement, la nuit, la forêt vit.
Il y a une ambiance, moi je pensais notamment à la Saint-Élion, là où on voit ce bandeau de lucioles là, tout le long de la course. Là, bon, là c'est peut-être avec les groupes de 5, c'est peut-être autre chose, mais c'est magnifique à voir.
Alors oui, c'est magnifique, c'est une belle impression quand on est organisateur de voir tous ces gens qui sont venus courir pour nous. Mais nous, dans le Red 28, nous essayons de chasser cela pour que les équipes se séparent. Donc mes amis et moi-même avons des idées de départ et des idées d'épreuves de progression qui vont séparer les équipes pour justement éviter qu'il y ait des 5, 6, 10 équipes de suite qui se suivent dans la forêt. Le Red 28 n'est pas fait pour que les équipes défilent les unes derrière les autres. Donc nous préparons chaque année des multitudes d'astuces secrètes, évidemment, pour que les équipes soient séparées et ne se suivent pas les unes les autres. Chaque équipe a aussi une stratégie pour ne pas être suivie, pour dérouter ceux qui les pourchassent. C'est assez amusant de voir comment les coureurs chevronnés échafaudent des plans pour ne pas être poursuivis par les autres.
Alors, on est un autre individu lorsqu'on finit un Red 28, comme le rigole ou comme l'expédition qu'on fait. Est-ce qu'on se trouve des ressources insoupçonnées et puis que ça change quelque part la vie?
Ah, c'est sûr que les personnes qui font des courses dures, le Red 28 n'échappe pas à la règle, qui finissent en équipe sont très très fiers de leurs exploits, année après année, et c'est la même impression qu'il y a quand on a fait quelque chose d'extraordinaire, une ascension formidable, et c'est la même impression qu'on peut tous avoir. Alors il y a des exploits exceptionnels, c'est vrai que quand on monte un 6000, un 8000, c'est pas donné à tout le monde, c'est difficile, mais nous, ce que nous avons voulu faire dans le Red 28, c'est donner la possibilité à beaucoup de personnes qui n'iront jamais dans les très hautes montagnes, qui n'iront jamais faire des grands exploits parce que ils n'auront pas la force physique, la force mentale, ils n'auront pas la préparation, la liberté, etc. Donc les gens qui ne pourront pas faire cet exploit, il faut leur donner la possibilité de faire un exploit du week-end difficile que tout le monde ne fait pas. Et nous gardons notre qualificatif de course unique en son genre, parce que nous donnons la troisième dimension également, et nous donnons la possibilité à des gens qui sont des gens simples, ordinaires, qui ne pourront jamais faire les exploits qui nous font tant rêver, traverser l'Atlantique à la rame, en voile, etc. Ce sont des exploits qui ne sont pas donnés à tout le monde. Donc dans le Red 28, les coureurs qui arrivent en équipe ont le sentiment vraiment d'avoir réussi quelque chose, et tous ces messieurs et madame tout le monde qui s'entraînent jour après jour, qui forment une équipe, ont vraiment le sentiment d'avoir fait aboutir quelque chose de grand. Faut les voir pleurer à l'arrivée. Mmh. Hein, des grands gaillards et des femmes costaudes pleurer d'avoir réalisé l'exploit avec leur équipe. Donc nous donnons la possibilité, nous les organisateurs, il n'y a pas que le Red 28, toutes ces courses difficiles donnent aussi la possibilité à des gens de se dépasser. Parce que le lendemain matin, quand on reprend son travail, on a vraiment le sentiment de pas être les mêmes. Et quand on regarde les collègues de bureau ou les collègues de la société, on se dit, moi je l'ai fait ça, j'ai eu la force de le faire, j'ai eu le caractère bien trempé, les sacrifices à l'entraînement. Et ces courses-là donnent l'impression à des coureurs ordinaires d'être vraiment très très forts sur le toit du monde.
On met combien de temps à récupérer d'un Red 28? 3 semaines, un mois, là, comme le rigole?
Alors autrefois, dans le Red 28, les coureurs qui arrivaient carbonisés. Et nous avons, comment dire cela...
Ils sont mieux préparés peut-être maintenant aussi.
Oui, mais les gens savaient que c'était très difficile, qu'on se blessait et qu'on arrivait en très mauvais état. Donc on a fait peur à beaucoup de coureurs. Depuis plusieurs années, le format du Red 28 a été assez différent. Les équipes qui veulent se battre en tête doivent avoir une structure d'équipe parfaitement bien organisée, des bons orienteurs et 5 coureurs et coureuses très bien formés. Et puis, pour se battre en tête, il faut vraiment aller vite, être astucieux dans la progression, avoir une intelligence de progression dans la course et bien s'entendre. C'est difficile, les gens arrivent fatigués, mais comme ils sont forts, quelques jours après, ils reprennent l'entraînement. Et puis il y a un autre format d'équipe, c'est les équipes qui sont un petit peu moins fortes, moins bien formées à la course d'orientation, mais qui veulent terminer quand même dans les délais. Donc elles s'économisent, elles ont une stratégie de course plus prudente, et elles arrivent quand même moins fatiguées, parce qu'on trouve des équipes de coureurs à pied très bons, mais qui s'économisent tellement pour ne pas être touchés par les barrières horaires qu'ils arrivent peu fatigués. Donc il y a à l'arrivée maintenant un meilleur pourcentage d'équipes qui finit sur les pieds et dans les délais. Ça nous fait plaisir. Mais les équipes qui finissent à l'arrière du classement sont quand même moins carbonisées qu'autrefois, puisque ces équipes-là autrefois finissaient en autobus.
Alors, avec des noms aussi assez atypiques hein, pour les équipes, hein. Esprit Red Latitude, c'est ceux qui avaient gagné l'année dernière, les Riders à tout va, les Bouffons du Sanglier, les Let's Go, les Orienteurs Fous, il y a quand même
alors le nom de l'équipe
particulier, ça fait partie de la tradition, ça, du Red 28.
Oui, les gens aiment bien faire une équipe et ceux qui reviennent tous les ans ont des noms d'équipes. Par exemple, il y a des équipes méga. On a certains de nos amis qui viennent dans la course depuis longtemps, leur équipe s'appelait Méga Red. Après, ils ont eu Méga Red 1, Méga Red 2. Ouais. Et là, ils vont aligner cette année 4 ou 5 équipes dont le nom des équipes commence toutes par méga.
D'accord.
Il y a des gens qui sont les maratouristes, par exemple, ce sont des coureurs de la région de Dreux. Donc il y a les maratouristes 1, les maratouristes 2. Et ils y tiennent parce que ce sont des clubs. Ils aiment bien mettre dans le nom de leur équipe quelque chose qui est la foi qu'ils ont dans leur réussite.
Qui puisse s'identifier.
Ils s'identifient au nom de l'équipe et c'est fort. Et nous, on joue en plein dans tout ça. Nous demandons aux équipes de nous donner un curriculum vitae.
Ah d'accord.
Je voulais dire une chose aussi, c'est que dans les équipes, il y a des gens qui ont également une inspiration supplémentaire à nous aider pour cette action humanitaire avec Dunes d'Espoir. Tout récemment, il y a une équipe qui s'est inscrite. Cette équipe a motivé une personne handicapée qui est une peintre, qui peint avec la bouche. Elle est handicapée très fortement. C'est une jeune femme qui peint avec sa bouche. Elle fait partie des quelques centaines de peintres handicapés qui sont connus dans le monde et bien identifiés. Et c'est la marraine de leur équipe. Donc ils ont mis beaucoup et ça marche pour eux au mental. Donc cette marraine de course a décidé de faire une peinture pour nos amis de Dunes d'Espoir. Ils ne se connaissent pas. Mais ils sont inspirés du même élan et du même engouement sur le Red 28 pour aider nos amis de Dunes d'Espoir. Donc toutes ces choses-là, ça nous fait énormément plaisir. Il n'y a pas seulement l'engouement des équipes à former un groupe qui va arriver jusqu'au bout. Ils se sont entraînés ensemble, ça fait partie de leur préparation. Donc ils ont investi beaucoup dans le Red 28. Et nous, on sait tout ça. Donc on veut leur offrir une belle course, ce sera difficile pour eux, mais alors à l'arrivée, que de souvenirs.
Ouais. Il y a combien d'équipes donc engagées à ce jour? Vous avez dit, Patrick, qu'il y a beaucoup d'inscriptions, même peut-être plus que les années précédentes.
Oui, on a aujourd'hui presque 50 équipes inscrites.
50 équipes 50. vous allez vous limiter ou alors vous prenez.
On y pense. On pense à se limiter, mais on est, comment dire, tout le monde est un peu fébrile parce que on a des amis qui s'inscrivent tous les ans, qui sont toujours pas inscrits.
Ouais.
Alors il y a des arrivées au courrier tous les jours.
Ça fait l'intox là. Je suis seul, il y a un peu d'intox.
Non, là il y a absolument aucune intox parce que pour la première fois depuis quelques années, on se pose la question de savoir à quel niveau de remplissage on va aller parce que la nature dans laquelle on court, c'est pas une nature qui peut accepter des milliers de personnes pour passer dans ces endroits sauvages. Et il faut qu'on soit raisonnable. Il y a un seuil à partir duquel, nous, organisateurs, on pourrait être dépassés.
Mm-hmm.
Donc on va privilégier une taille de la course et on va s'en tenir là.
Ouais, il y a des limites, non, d'inscription ?
Et alors, il y a une date limite pour le changement du prix de l'inscription.
D'accord.
Qui était donc le 8 décembre.
Ouais.
Ça peut expliquer l'afflux d'inscriptions. Voilà.
Ouais.
Donc le montant de l'inscription maintenant est passé de 250 à 300 euros.
Ah, quand même. Ouais.
Mais on sait que tous les ans, il y a des équipes qui ne sont pas arrêtées par cela, mais qui ont un temps de préparation pour pouvoir s'inscrire. Donc on ne sait pas à quel seuil on va s'arrêter. On est en train d'examiner toutes les particularités du parcours pour éviter d'avoir à certains endroits où on veut vraiment que les équipes passent, éviter d'avoir des creusements de sentiers. Il y a des traversées quelquefois aventureuses, c'était le cas l'année dernière. On passe essentiellement sur des passages d'animaux. Vous le savez, les animaux vont boire, on n'est pas dans la jungle africaine, mais en Île-de-France, il y a des plans d'eau, il y a des rivières, et les animaux sauvages dont on a parlé tout à l'heure, qui sont cachés de jour, viennent boire la nuit. Et traversent des petits cours d'eau, et nous faisons passer les coureurs à ces endroits-là, parce que ce sont des endroits déjà ravagés par les pas des animaux. Donc on fait passer nos coureurs. Parce que si on fait passer les coureurs sur des rives propres, ils ont fait des traces d'animaux, c'est sûr. Donc on évite de passer dans des endroits protégés et propres, donc les coureurs traversent au passage d'animaux.
D'accord. Donc 70, 80 équipes, c'est possible ?
Alors notre maximum, ça a été en 2000. Nous avons eu 66 équipes.
Ouais.
Le parcours était plus simple à gérer. C'était l'an 2000, évidemment. C'était quelque chose d'extraordinaire. On ne sait pas quel est le seuil aujourd'hui. Nous allons nous arrêter. Nous inspectons le parcours pour savoir ce que ça va donner quand on va avoir 50, puis 60, puis 70 équipes.
Mmh.
Une année, en 98, je crois, nous avons refusé des équipes. On a refusé une trentaine d'équipes. Donc on a renvoyé des chèques à des gens.
C'est énorme.
Nous sommes donc passés pour des snobs, notre petite course d'Île-de-France, etc. Donc beaucoup de coureurs de France ne sont plus venus après parce qu'ils ont cru qu'on les avait snobés. C'est pas ça. C'est parce qu'on avait décidé de s'arrêter à 50 équipes.
D'accord. Oui. Et si Hervé Guérin veut venir s'inscrire avec son équipe, il a une date limite jusqu'à quand ? Jusqu'au 18
janvier. Ah bon, on lui fera une place privilégiée jusqu'au départ de
janvier,
la course.
18 janvier, non ?
Donc, ils sont tellement contents de l'avoir parmi nous avec son équipe. Donc on peut lui garder une petite place, bien entendu. Ouais.
Et une petite question comme ça, est-ce qu'effectivement vous pensez que vous êtes arrivé à un stade, aussi bien dans l'organisation ou autre que le nombre de participants, là où on est de parler, où si on veut quelque chose, je sais pas, je parlais tout à l'heure aussi de la Saint-Élion, si on veut avoir une renommée qui soit plus importante, est-ce que ou c'est quelque chose où vous voulez vous contenter simplement, est-ce qu'on est vraiment dans une phase un peu justement là de. On va dire de général d'un niveau bon qui est celui qu'il est, mais où voudriez aller au-dessus ou continuer comme ça.
Dans notre
on arrive à juger ça. On arrive à le jauger, ça.
Oui, on peut en quelque sorte avoir une stratégie à long terme. On n'a pas vraiment une stratégie à long terme. Nous, nous avons des objectifs, c'est-à-dire, on veut que la course reste intéressante pour les coureurs. On veut qu'elle reste originale. Il y a quelques années, il n'y avait pas de course comme ça la nuit. On a été les premiers à faire des courses d'hiver et de nuit.
Mais là c'est quand même la 15e édition. Je veux dire, à la limite, vous pourriez très bien vous dire, ben tiens, on a envie d'avoir une aura nationale, internationale.
Ils ont une aura nationale et internationale.
Oui.
Le Red 28 est connu parce qu'on
course, hein, comme
on a fait ce qu'il fallait. On cherche à faire venir des coureurs de l'étranger.
Mmh.
Parce que ça nous apporte une culture différente. Il y a des pays qui ont une vision différente des courses d'orientation, qui ont une vision différente du terrain, et ça nous apprend beaucoup. Nous cherchons à faire venir des gens qui sont des coureurs chevronnés, parce que ceux-là portent un œil sur la course qui nous intéresse. Quand vous avez une vedette de course à pied qui vient, il y en a dans les équipes, leur vision nous intéresse. Malheureusement, beaucoup de nos amis coureurs qui sont des champions, ou des anciens champions de course à pied qui viennent, sont quelquefois déçus sur la difficulté de la course. Ils s'attendent à trouver une course de coureurs à pied, c'en est une, mais c'est une course qui a tellement de paramètres de difficultés que les gens sont vite perdus. Donc un coureur pur de course à pied qui vient pour la première fois sur le Raid 28 peut être dérouté par tout le travail que l'on demande de faire sur cette course. Donc notre objectif à nous, c'est de préparer pour nos amis coureurs une course qui va les intéresser, pour leur apporter de la satisfaction à l'arrivée, qu'ils aient vraiment le sentiment, tous, du premier au dernier, même ceux qui ont abandonné, ils aient le sentiment d'avoir fait une belle course et de s'être fait plaisir en faisant la course. Mmh. Ça, c'est un objectif. Et deuxième objectif, c'est que mes amis bénévoles et moi-même ayons toujours du plaisir à organiser cette course.
On a essayé de vous copier. Est-ce qu'on essaie de vous copier, de faire un peu le même genre de course dans des coins de France ou pourquoi pas même d'autres coins d'Europe ?
Oui, bien sûr, copier, je ne sais pas. J'ai des amis organisateurs, notamment, il y a une belle course. Bah, je pense à Jacques, dont on a parlé tout à l'heure. Bon, il fait une course originale, ce n'est pas une course par équipe.
Ouais, voilà, c'est ça.
Voilà. Nous, nous sommes restés une course par équipe. Il y a une autre course par équipe avec laquelle on fait des échanges de places gratuites, c'est le Raid Normand.
D'accord.
Pascal Leblay est un ami de longue date, qui est venu courir sur le Raid 28. On s'est connu à l'occasion également du Raid Gauloise. Donc, il a organisé une course qui ressemble à la nôtre. On a beaucoup parlé ensemble de cela. Il a eu ses objectifs là-bas en Normandie. Il vient chez nous, on va chez lui, on a du plaisir à aller les uns chez les autres, on ne se concurrence pas et on travaille les dates de nos deux courses pour avoir au moins 15 jours de différence dans les deux courses. Parce que nos coureurs veulent faire les deux courses. Les coureurs veulent faire l'Aurigol, ils veulent faire le Raid 28, ils veulent faire le Raid Normand, et nous jouons à fond tout cela. On garde des espaces dans le calendrier pour que les courses ne se chevauchent pas.
D'accord.
Alors on peut pas le faire avec tous les événements sportifs, mais avec ceux-là on le fait. Mmh. On s'entend bien. Qui est concurrent de qui? On ne sait pas. Qu'est-ce qui nous domine? C'est le plaisir qu'on va apporter aux coureurs. Et tant que nos courses se voisineront à quelques semaines d'intervalle et que l'on fera plaisir aux coureurs, eh bien on continuera comme ça.
Très bien. Il faut être licencié dans une fédération ou quelqu'un qui n'est pas licencié mais très bien entraîné sportivement peut participer sur Raid 28.
Alors c'est pas un critère, il y a un critère officiel dans le règlement. Tous les coureurs et les coureuses doivent présenter un certificat médical.
Et ça c'est obligatoire, on en parle.
À jour. Ouais. Ou présenter une licence à jour également. Mm-hmm. Parce que la licence impose d'avoir un certificat médical, donc nous imposons à la remise du dossier au plus tard le jour du contrôle. C'est-à-dire quelques heures avant la course, que l'équipe au complet apporte son certificat médical ou apporte son certificat de licence.
Vous pourriez refuser du monde si, par exemple, on n'apportait pas le certificat médical, parce que c'est arrivé dans des épreuves sur route. Hein.
Alors, notre position est la suivante. Les équipes ont tellement mal à se mettre en place que c'est un crève-cœur de refuser une équipe à cause d'un point du règlement.
Oh non, on prend des risques, fatalement.
Bien sûr. C'est la raison pour laquelle, au niveau du contrôle, juste avant la course, il y a un formulaire spécial quand vraiment un coureur a oublié son certificat médical ou ne l'a pas, ou etc. Il remplit une décharge. Alors, de temps en temps, ils le font. Est-ce que ça a une valeur juridique? Non. Mmh. Le danger sur le Raid 28 n'est pas très grand. C'est pas comme quand on se lance dans des grandes courses comme l'UTMB ou des courses où il va y avoir du danger ou des raids multisports où il faut faire des acrobaties, des escalades, etc. avec des harnais. Il n'y a pas ce danger-là. Mais on n'est pas cool avec le règlement. Jusqu'à présent, toutes les équipes ont eu un dossier complet et plus que complet. Donc on n'a jamais refusé des gens pour cela. Par contre, on a corrigé des attitudes de coureurs qui n'étaient pas assez couverts ou qui partaient avec des équipements un peu insuffisants pour une course d'hiver.
D'accord. On va rappeler, vous avez aussi d'autres épreuves, d'autres organisations dans l'année.
Oui, à Bure-sur-Yvette, les mêmes coureurs se retrouvent sur les 12 heures de Bure.
Ouais.
Je n'ai pas la date en tête, là. Il y a également le Duathlon de l'Yvette, qui est une course qui tourne autour de Bure, où tous ces acharnés de course à pied, de VTT, etc., viennent s'entretuer sur le classement. C'est assez amusant, et on est une bande, toujours la même bande d'amis à Bure-sur-Yvette, qui organise cela. Ce sont plusieurs associations qui jouent ensemble à organiser. Alors on se prend au sérieux parce que on fait des courses officielles qui sont sérieusement mises en place, mais on aime bien aussi s'amuser, on passe des bons moments, mais c'est très dur pour les bénévoles, c'est comme pour le Téléthon. Mmh. Donc on a un engagement très fort vis-à-vis de nos amis coureurs, et on a un engagement très fort vis-à-vis de entre nous. Et ça nous permet de faire des courses avec des bons moments. La préparation est aussi un bon moment pour les équipes, parce que elles passent des soirées à discuter de leur parcours. Tu vois ce que je veux dire ? Préparer des grands raids, ça demande du temps. Quand on est avec un équipier, il faut soigneusement organiser l'expédition. Donc pour les organisateurs, c'est exactement pareil. On passe des soirées à préparer ça. On n'est pas toujours tous d'accord, c'est quelquefois animé. Ça se passe souvent chez moi, autour d'un repas. Ouais. Donc, n'empêche que quelquefois, il y a des caractères bien trempés. Et moi, c'est ce que j'aime parmi mes amis qui organisent cette course, c'est qu'ils ont des caractères bien trempés. On n'est pas toujours d'accord. On a des décisions abouties, c'est-à-dire qu'on a bien réfléchi à tout ce qu'on allait faire. On a réfléchi aux conditions dans lesquelles on allait faire courir nos coureurs. Et entre nous, ça fait des belles, belles, belles discussions. Alors moi, je vis à ce rythme-là. C'est extrêmement intéressant.
Très bien. Un petit merci aux bénévoles et puis aux partenaires, Patrick, hein, parce que sans eux, il n'y aurait pas d'épreuve, fatalement.
Alors, on a des partenaires. Je ne sais pas si ici, on est autorisé à citer les noms, mais il y a des gens qui nous sont extrêmement cher, notamment les villes qui nous aident. Et l'année dernière, il y avait la ville d'Épernon dans laquelle on est arrivé, qui nous a fait un accueil absolument magnifique. La ville de Bures-sur-Yvette, qui est également, c'est notre ville, hein. Et puis, on a des partenaires très importants, qui sont des noms que vous connaissez bien, notamment la RATP, qui nous prête des bus de rapatriement avec les chauffeurs. Ça, c'est quelque chose d'absolument unique. Il y a également le magasin Carrefour, qui est notre voisin, qui est un sponsor historique, puisque c'est le tout premier qui nous a aidés quand on a commencé la course.
Je crois, Carrefour, hein, devant le
Oui, nous faisions le départ sur la dalle du magasin pendant plusieurs années. Quand le Raid 28 partait à 3h du matin, on s'abritait sous le porche d'entrée du magasin Carrefour. Mais le magasin a été le premier sponsor qui nous a aidés, et les directeurs successifs ont été des partenaires de la course depuis toujours. Alors ça nous permet de faire quoi ? Ça nous permet d'avoir une aide matérielle pour faire un super repas à l'arrivée. Et on veut offrir à nos coureurs dans le Raid 28 tout ce qu'on trouve dans toutes les courses. Un repas, des cadeaux, un accueil, des contrôles sérieux, un rapatriement en bus, des ostéos, un reportage photo, une vidéo. Ouais. On fait un complet.
Il y a un DVD chaque année, hein.
Chaque année, il y a un DVD, oui, qui est tourné par un ami qui est semi-professionnel dans le domaine de la vidéo. On fait un très beau film. C'est un film de 50 minutes qui est magnifique. Tous les ans différents, c'est pas seulement un reportage sportif, c'est un vrai film. Et on est très très fiers de cela, et on a maintenant une collection d'une douzaine de films sur le Raid 28, puisqu'on a commencé très tôt à faire des vidéos, et ça fait partie du patrimoine de l'équipe Touroum. Mais le plus beau patrimoine, c'est le patrimoine humain. Et tous ces amis qui sont avec moi depuis très longtemps, puisque il y en a qui sont avec nous depuis les débuts, ça fait une équipe solide. Et moi, cette équipe-là, je la protège. Et on ne veut pas exploser à cause d'une course qui aurait une ambition, pour répondre à ta question, une ambition trop forte. On n'a pas d'ambition médiatique de grandir, parce que le terrain sur lequel on se déplace est limité, et je ne vois pas un Raid 28 avec 200 équipes, parce que on peut pas se déplacer avec autant de personnes dans la région parisienne. Faudrait faire une autre conception de parcours.
Très bien. Allez, on a été très bavard. On va quand même marquer un break musical, hein, et puis ensuite, bah, vous voyez, on arrive presque déjà à la fin de cette première partie. 3 heures d'antenne ce matin, donc 9h midi pour Tribune Sport. Oui, et sur les 103.7, donc on va peut-être revenir une dernière fois donc sur le Raid 28. Patrick, on va quand même rappeler, vous avez un site internet. Là, on peut tout savoir sur ce site internet. Hein.
Alors, il y a le site internet raid28.com pour avoir tous les renseignements. Et je conseille également sur le site d'aller dans le menu, il y a le blog de Jeannot. Jeannot, c'est notre ami Jeannot, dit Jeannot Latrace, qui est le responsable du parcours. Ouais. C'est avec lui qu'on prédit toutes ces aventures. Donc, il a fait un blog où il donne énormément d'informations qui ne sont pas sur le site, évidemment. Donc, raid28.com vous donne pas mal de renseignements. Évidemment, les bulletins d'inscription et tout ce qu'il y a à savoir sur la course. Mais également ce blog. Et puis le forum de discussion, qui est très actif en ce moment, sur lequel on s'amuse à polémiquer sur différents points de la future course.
Alors, on va rappeler quand même une date limite pour les inscriptions. Hein.
Alors, la date limite pour les inscriptions, c'est le 8 janvier.
D'accord. Donc, 10 jours avant. Hein.
10 jours avant, mais vraisemblablement, on va limiter les inscriptions. S'il y a trop de coureurs, nous serons obligés, malheureusement, de limiter le nombre d'équipes.
Et puis, dernier petit mot. Allez, il reste un mois et demi. On dort bien, même au bout de 15 éditions.
Oui, on dort bien parce qu'on a le sentiment de faire quelque chose de bien pour nos coureurs. On a le sentiment de faire une course qui va les intéresser. Et on dort d'autant mieux que on est appuyé dans cette action humanitaire en faveur de Dunes d'Espoir par beaucoup de gens, et ça nous fait énormément plaisir de voir que au-delà de la course à pied, les sportifs sont des exemples. Mmh. On l'avait donc avec le Téléthon, puisque ceux qui ont couru sous la pluie pour le Téléthon aux Ulysses, et les milliers de personnes qui ont fait des efforts sportifs ce week-end pour le Téléthon, sont des exemples.
Défi, non, on a battu le défi de...
Aux Ulysses, je ne pense pas, non, parce que c'est difficile de sportivement de demander un engagement aux gens quand il fait aussi mauvais. Mmh. Par contre, l'engagement des sportifs, l'engagement dans le mauvais temps et l'engagement physique est un exemple, et c'est le même exemple qu'on trouve avec les personnes handicapées qui viennent sur nos courses, et c'est une fierté pour nous d'avoir nos amis de Dunes d'Espoir avec leur jeu et l'aide, parce que c'est un exemple de courage. On parle beaucoup des personnes handicapées, mais on ne connaît pas bien, pour beaucoup d'entre nous, le calvaire que c'est pour les gens qui sont touchés, et être avec eux, c'est une fierté, et ça nous fait bien dormir.
Très bien, merci. Donc rendez-vous est pris 19 et 20 janvier, même si on aura une couverture un peu différente de l'année dernière, hein, où vous avez fait vivre la nuit du Raid 28, là, passé tout près d'ici. On sera naturellement en direct sur l'événement, on aura l'occasion de vous retrouver plusieurs fois dans ce week-end, Patrick. Merci en tout cas, bon retour donc du côté des Ulysses et de Bures-sur-Yvette.
Et merci à RVE qui est un fidèle sponsor également du Raid 28.
Absolument, voilà. Allez, maintenant on a le carillon de 10h, on parle vélo avec le manager général de l'équipe cycliste Cofidis et Eric Boyer, et ensuite on ira en montagne. On y va.
Il est 10h, bon dimanche sur RVE.